Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Notre monde a besoin d'espérance et nous sommes persuadés que la véritable espérance se trouve en Jésus-Christ seul.
Or, c'est dans la Bible que nous découvrons Jésus-Christ et tout ce qu'il nous offre. Cependant, nous pouvons aussi apprendre de lui à travers le vécu d'autres personnes. C'est pourquoi nous allons écouter un témoignage maintenant.
Aujourd'hui, au lieu d'avoir une de nos discussions habituelles sur la Bible, je vais interroger une personne sur le cheminement vers la foi en Jésus-Christ. Je suis donc content d'accueillir Silke Kirchner pour ce moment de partage. Bonjour Silke.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Silke, dites-nous d'où vous venez et donnez-nous quelques détails sur votre enfance, s'il vous plaît.
Oui, alors, j'ai grandi en Allemagne dans une famille de tradition protestante. On fréquentait l'église de temps en temps, surtout pour Noël et à Pâques aussi. À l'âge de 13 ans, je suis allée au cours de préparation pour ce que nous appelons la confirmation. C'est une occasion où l'on confesse sa foi en Jésus-Christ, publiquement, devant la famille et l'église. C'est là que l'on participe à la Sainte Cène pour la première fois.
Et comment avez-vous ressenti cette confirmation et qu'en pensez-vous aujourd'hui?
Je savais qu'il s'agissait d'un engagement sérieux et je croyais que Dieu existait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je n'avais rien compris, ni du péché, ni du salut en Jésus seul. Je n'avais pas compris l'essentiel de l'Évangile.
Pourquoi dites-vous cela?
Parce que peu de temps après la confirmation, j'ai commencé à vivre comme une adolescente non chrétienne assez typique. C'est-à-dire, je faisais la fête, j'avais des petits amis, je me suis révoltée contre mes parents et mon professeur à l'école. Je suis allée même beaucoup plus loin. J'ai commencé à voler des petites choses dans des magasins et j'ai commencé à fumer et à boire de l'alcool. J'ai même essayé de fumer du haschich 2 ou 3 fois, mais heureusement, c'était si affreux que je ne l'ai plus jamais touché.
Et cette vie-là vous a-t-elle apporté quelque chose? En étiez-vous satisfaite?
Comme la plupart des femmes de mon âge, je cherchais à avoir des relations sexuelles avec des hommes sans penser qu'il s'agit de quelque chose de spécial à réserver pour le mariage. J'y voyais un moyen de trouver un peu d'amour dans ce monde, car mes relations avec mes parents ont empiré et je ne me sentais plus aimée d'eux. Toutefois, au lieu de trouver un véritable sens de ma vie, je n'ai rencontré que déception et blessure, et je sombrais dans la dépression.
Pouvez-vous décrire ce qui s'est passé exactement?
Oui, j'ai quand même eu une relation sérieuse qui a duré 4 ans, mais elle a pris fin en 98, et cela a été très douloureux pour moi. Les mois suivants étaient affreux. Je cherchais à oublier mes peines sentimentales en faisant du sport. J'en souffrais jusqu'à vomir tout ce que je mangeais, aussi étrange que cela puisse paraître. Mais pourtant, je continuais à chercher l'amour de ma vie en fréquentant les boîtes de nuit et les fêtes. Et c'était au printemps 99, un homme dont j'étais sûre qu'il deviendrait mon mari me disait qu'il ne m'aimait pas, et ce nouveau rejet m'a plongée dans le désespoir. Je me sentais prise dans un cercle vicieux et je ne savais pas comment m'en sortir. J'en ai même eu des pensées suicidaires, je voulais m'enfuir.
Avez-vous cherché un moyen pour vous en sortir? Quelle est la suite des événements?
Une amie m'a dit qu'il y avait des bourses disponibles pour aller passer une année dans une université en France. Et moi, j'ai tout fait pour l'obtenir et j'ai réussi. En même temps, l'idée de partir m'angoissait beaucoup. Et en fait, je ne menais plus une vie normale à ce temps-là. Je me réfugiais de plus en plus chez moi. Je ne quittais plus mon lit. Je ne faisais que pleurer, manger et dormir. C'est à ce moment que j'ai quand même consulté médecin et psychologue.
Et ces médecins ont-ils pu vous apporter du secours?
Oui, je ne voulais plus mener cette vie-là et les médecins m'ont aidé à retrouver un certain équilibre. J'ai repris confiance et j'ai pu partir en France, pour Toulouse, pour accomplir ce projet qui semblait auparavant compromis. Nous étions alors en janvier 2000.
Et vous êtes parti à l'étranger avec quel espoir en tête?
Tout d'abord, je voulais améliorer mon français. Mais en même temps, je voulais faire des aventures, faire la connaissance des cultures et des gens différents.
Et vos premiers mois en France se sont passés comment?
C'était comme une continuation de ma vie en Allemagne. Rien n'a changé. Si ce n'est que mes moments de désespoir étaient moins fréquents et moins profonds. Je continuais à faire la fête, surtout avec d'autres étudiants étrangers. Mais cela commençait à me dégoûter énormément. Et puis, pendant une soirée allemande, j'ai rencontré une fille appelée Andrea, une étudiante qui passait une année de stage à Toulouse. Et tout de suite, nous avons bien sympathisé et elle m'a proposé de déjeuner ensemble le lundi suivant.
Et cette nouvelle amitié avec Andrea, pourquoi était-elle si importante?
Parce que lorsque nous nous sommes revus, elle s'est mise à me parler de Dieu et de sa foi en Jésus. Elle m'a raconté comment elle avait été sauvée. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que j'avais entendu parler de Jésus, mais avec Andrea, tout semblait différent. Elle m'a expliqué que Dieu est saint et que l'homme est pécheur. C'est-à-dire, Dieu est profondément offensé par tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Et à cause de nos fautes, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu. Le péché était un mot dont je ne connaissais pas le vrai sens. Et je n'étais surtout pas consciente de conséquences éternelles du péché.
Et comment avez-vous réagi pendant cette présentation si claire de l'Évangile?
J'étais curieuse et perplexe en même temps. Andrea connaissait bien sa Bible. Et moi, je lui ai posé pas mal de questions. Et elle a su donner des réponses claires. Chaque fois qu'on s'est vu, on discutait autour du sujet de la foi en Christ. Toutefois, presque au même moment qu'Andrea est entrée dans ma vie, je suis tombée amoureuse d'un jeune homme. Ce dernier pratiquait une autre religion et lui, il ne croyait pas en Jésus comme Andrea le croyait. Souvent, nous discutions en trois des questions spirituelles dans le plus grand respect. Quant à moi, ses avis divergents sur Jésus m'ont perturbée et je me sentais tiraillée. Alors que j'avais commencé à défendre l'enseignement biblique sur Jésus lors de ces discussions, en réalité, je doutais encore du sens biblique de sa mort et de la vérité de la résurrection.
Merci, Silke. Malheureusement, nous devons arrêter là pour aujourd'hui, mais vous reviendrez pour notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui, afin de raconter la suite de votre expérience. J'encourage donc tous nos auditeurs à être au rendez-vous.
Merci, Ian. Au revoir à tous et à bientôt.
Tout comme Silka, vous pouvez vous aussi vous sentir tiraillé entre le désir de réussir votre vie selon les aspirations du monde ou bien d'accepter les vérités de la parole de Dieu. Dans notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui, Silka nous expliquera comment elle a finalement vaincu cette lutte intérieure.
La méditation de la parole de Dieu permet d'apporter un regard divin sur le vécu d'autres personnes et aussi sur nos propres expériences dans la vie. Je vais donc à présent partager quelques pensées de la Bible. Hélène va lire un verset trouvé dans les prophéties de Jérémie, au chapitre 3 et verset 13.
Moi, le Seigneur, je le déclare. Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi la source d'eau fraîche qui donne la vie. Elle a creusé des citernes, mais ces citernes sont fendues. Elles ne retiennent pas d'eau.
L'eau est essentielle pour la vie. L'eau est une ressource précieuse que l'on apprécie surtout quand elle commence à manquer ou quand les sources deviennent sales et polluées. Le prophète Jérémie, qui a écrit les paroles lues tout à l'heure, évoque une ville assiégée qui compte sur ses réserves d'eau contenues dans des citernes afin de tenir bon contre l'ennemi. Cependant, il s'avère que les citernes sont fendues. Toute l'eau s'est écoulée et tout ce qui reste sont des fonds boueux qui ne dureront plus longtemps. Quelle découverte! Il s'ensuit la déception, la panique et le désespoir. La leçon que le prophète veut en tirer est ceci. Au lieu de mettre sa foi dans les œuvres humaines, il faut placer sa foi en Dieu. Entre l'eau boueuse au fond d'une citerne et l'eau fraîche d'une source ruisselante et saine, Le choix est facile. Et pourtant, selon le prophète, l'on fait si facilement le mauvais choix. Oui, entre les activités attirantes, mais si souvent décevantes de ce monde, et la vraie vie que Dieu donne, le choix devrait être facile, mais on se trompe si facilement. Telle est l'expérience de Silka et de bien d'autres. Elle cherche de quoi combler ses besoins, de quoi satisfaire ses désirs, mais sa quête la conduit du mauvais côté. Plus elle cherche le plaisir dans les activités et les relations mondaines, plus elle constatait que ces choses ne la comblaient pas, qu'elles ne répondaient pas à ses attentes. Pourtant, malgré ses désappointements, elle poursuivit de plus belle ses recherches dans les eaux boueuses des citernes fondues de ce monde. Elle a fini par connaître la solitude, la dépression, le désespoir et la confusion. Peu importe d'où l'on vient, que ce soit d'Allemagne ou d'Afrique, c'est la même leçon que nous devons retenir. Et même si les aspirations, les besoins et les désirs des uns peuvent varier de ceux des autres, dans la mesure où ces espoirs sont portés sur ce qu'offre ce monde, on risque d'être rapidement déçu. Tout comme une personne assoiffée qui s'est déplacée au robinet du village pour ne trouver que quelques gouttes. Selon le prophète, la cause du problème vient de ce que les hommes et les femmes s'éloignent de Dieu. Car, comme il est dit, c'est Dieu qui offre une source d'eau fraîche qui donne la vie. Silka a laissé derrière elle la foi et l'église de son enfance. Cet abandon du peu qu'elle connaissait de Dieu la conduit vers une vie malheureuse, car elle a fait ce qui lui semblait bon au lieu de respecter la parole de Dieu. Dégoûtée des eaux sales du monde dont elle s'abreuvait, Silka a fini par réfléchir sur l'enseignement de la Bible. La prochaine fois, nous découvrirons comment elle a trouvé dans l'Évangile une source de vie abondante, vraie et satisfaisante. En attendant, pour conclure cette méditation sur l'eau, écoutez quelques paroles prononcées par le Seigneur Jésus. Si quelqu'un boit de l'eau de ce puits, il aura encore soif. Mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source, et cette source donne la vie avec Dieu pour toujours.
Jésus est véritablement source d'espérance pour tous ceux qui se tournent vers lui par la foi.
N'oubliez pas que la prochaine fois, nous écouterons la suite du témoignage de Silka. Sortira-t-elle du cercle vicieux des déceptions relationnelles et de la dépression dans laquelle elle sombrait? C'est une histoire vécue à suivre.
En attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.